Voilà pour ce matin. Nous allons donc partager bien sûr sur la parole du Seigneur. Et puis en fait, je vais continuer le message que j'avais commencé en février. Et le thème de ce message était « Quel est le modèle de Dieu pour son Église hein? ?» Quel est le modèle de Dieu pour son Église ? Et la première partie du message, j'avais parlé plus particulièrement au niveau des membres de l'Église. Comment est-ce que Dieu voyait les membres de son Église? Et je vais refaire un petit résumé pour se remettre dans le bain, parce que même moi, j'ai dû me relire. Donc, vous voyez, hein, on oublie. Hein, tant qu'on sait qui est le matin, quand on se regarde dans le miroir, qui on est, c'est quand même bon signe. Hein, parce que je dis ça parce qu'hier, on a eu une visite d'un monsieur qui a le début de maladie d'Alzheimer. Ben, quand il regarde une photo, il ne se reconnaît même pas. Hein. Donc là, c'est moins drôle, mais bon, ma foi, voilà, ça fait partie des fois des maladies hein, qu'on peut subir, et pas forcément âgées. Hein. Il y a des gens déjà dans la quarantaine qui attrapent aujourd'hui l'Alzheimer. Hein. On est dans un monde un peu quand même déréglé. Bref. Donc la première partie de ce message, on va revenir brièvement dessus. Et puis la deuxième partie, je vais continuer un petit peu sur les membres. Et puis après, je vais plus parler de la structure de l'Église, du fondement de ce qu'est l'Église. Donc ce matin, ce sera un petit peu plus une prédication sous forme d'un enseignement. Mais c'est bien que chacun puisse l'entendre, de se rappeler, il n'y aura rien de révolutionnaire, hein, mais de se rappeler un petit peu quels sont les fondements de l'Église, de comprendre la pensée du Seigneur par rapport à son Église. Et quelque part, ben, le Seigneur nous avait précédé au travers de la lecture de notre frère Romain, hein, dans Zacharie 8, je relis le verset 10 tout particulièrement, « Car avant ce temps, le travail... » Non, je lis avant, pardon, verset 9. « Ainsi par l'Éternel des armées, fortifiez vos mains, vous qui entendez aujourd'hui ces paroles de la bouche des prophètes, qui parurent au temps où fut fondée la maison de l'Éternel des armées, où le temple allait être bâti. Car avant ce temps, le travail de l'homme ne recevait pas sa récompense et le salaire des bêtes était nul. Il n'y avait point de paix pour ceux qui entraient et sortaient à cause de l'ennemi, et je lâchais tous les hommes les uns contre les autres. Maintenant, je ne suis pas pour le reste de ce peuple comme j'étais dans le temps passé, dit l'Éternel des armées. » Et c'est un texte, en fait, on va pas faire l'étude de ce texte, mais c'est un texte qui nous parle aussi du millénium. Hein, il y a un arrière-plan de millénium, des promesses par rapport au millénium. Et un rappel aussi de la part du Seigneur de se souvenir le temps où Dieu a commencé à bâtir son temple, hein, sa maison. Et aujourd'hui, l'Église, elle est la suite du temple quelque part de Jérusalem. Hein. Il y a une continuité. Il y a eu le temple de Salomon. Et bon, après, il y a eu différentes époques, hein, avec le temple qui était détruit, qui était reconstruit, qui était redétruit, et qui aujourd'hui, ben l'Église, hein, l'Église est devenue le temple. Nous, ensemble, réunis au nom du Seigneur, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Amen. Alors, nous allons parler un peu de ce temple. Et la dernière fois, donc, j'avais commencé par une lecture en Jérémie, et je vous refais cette lecture en Jérémie 6. Les versets 14 à 16. Jérémie 6, 14 à 16. Ils pensent à la légère la plaie de la fille de mon peuple. Paix, paix, disent-ils, et il n'y a point de paix. Ils seront confus car ils commettent des abominations, ils ne rougissent pas, ils ne connaissent pas la honte. C'est pourquoi ils tomberont avec ceux qui tombent, ils seront renversés quand je les châtierai, dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie, marchez-y, et vous y trouverez le repos de vos âmes. Mais ils répondent, nous n'y marcherons pas. Donc ce texte nous parlait de ce que la plaie de la fille de mon peuple était pensée à la légère, qu'il disait paix, et alors qu'il n'y avait point de paix. Et puis, on avait abordé un peu ce que c'était que penser à la légère cette plaie pour les membres, en fait, d'une église. Ben, c'est mettre un peu de côté la sanctification, de parler peut-être que de la grâce, et de mettre aussi de côté une vie qui se soumet à la volonté de Dieu. Hein. Ces chrétiens qui, quelque part, portent un titre, mais en fait, peut-être, sont en rébellion contre le Seigneur. Je relis la verset 16. « Ainsi par l'Éternel, placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie, marchez-y et vous y trouverez le repos de vos âmes. » Mais ils répondent « Nous n'y marcherons pas. » Il y a une forme de rébellion, qui peut y avoir une forme de rébellion parfois au milieu du peuple de Dieu, et on avait vu ces choses-là au travers de deux exemples bien connus du roi Saül. On avait lu dans 1 Samuel 13 et un deuxième exemple, 1 Samuel 15, c'était deux batailles que Saül a dû mener. La première contre les Philistins. Et contre les Philistins, vous rappelez, il avait cherché à recevoir rapidement la bénédiction de Dieu. Il n'avait pas attendu que le prophète Samuel arrive. Il avait fait l'offrande lui-même, pensant qu'ainsi Dieu allait le bénir dans la bataille. Et c'est un peu comme ça aussi les chrétiens, entre guillemets, que j'appellerais du dimanche, qui viennent à l'église le dimanche juste pour recevoir une petite bénédiction. Et puis penser que voilà, la bénédiction du Seigneur, quelque part, ça s'achète, on peut la recevoir par nous-mêmes, et puis sans jamais en fait se soumettre à la volonté de Dieu. Et puis le deuxième exemple, c'était Samuel qui devait passer au fil de l'épée tout le peuple des Amalécites, et puis il a désobéi, il a laissé le roi vivant, il a laissé du bétail, parce que tout le bétail devait être aussi passé au fil de l'épée. Et puis il a écouté le peuple qui, on peut s'imaginer, disait « Ah, mais non, laisse-nous un petit peu quelque chose, et puis comme ça on pourra offrir ça, un sacrifice à l'Éternel. » Et il y avait eu ces fameux deux versets que je vous relis, qui sont très connus dans la Bible. « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel ? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. » Car la rébellion est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphimes. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Saül, on avait vu, il aurait dû simplement rester en prière, se mettre à l'écoute du Seigneur, observer les commandements de Dieu, suivre la pensée du Seigneur, et Dieu de toute façon aurait été avec lui et lui aurait donné la victoire. Donc voilà, penser la plaie à la légère de la fille du peuple de Dieu, c'est mettre de côté la sanctification, c'est de mettre de côté une vie où on cherche quelle est la volonté de Dieu pour nous. C'est pas une option en tant que chrétien. Dans nos choix qu'on doit faire, dans les directions qu'on doit prendre dans nos vies, on doit chercher la face du Seigneur. On est appelé à être ses serviteurs, et on est tous appelés à être ses serviteurs. Nous tous réunis ce matin, nous sommes appelés à être ses serviteurs et à chercher quelle est la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, elle est bonne, elle est parfaite. Amen. C'est pas un jour importable où il faudrait entrer dans des choses qu'on n'arrivera pas à accomplir et puis finir en burn-out ou que sais-je. Non, la volonté de Dieu, elle est bonne. C'est celle qui va vraiment correspondre pleinement aussi à ce que Dieu, en fait, a créé dès le départ en chacun d'entre nous. Nous a destiné à des choses particulières, chacun d'entre nous, et chercher sa volonté, chercher la volonté du Père, c'est entrer dans notre destinée, c'est entrer pleinement dans notre identité, c'est entrer pleinement dans nos capacités. Amen. Amen. Alors je continue le message, et nous allons voir que pour vivre cette sanctification, pour chercher la volonté de Dieu, c'est pas quelque chose qui tombe comme ça du ciel, simplement comme le chrétien du dimanche un peu s'imagine. Voilà, je viens au culte et puis hop, c'est tout ce que j'ai à faire. Dieu, de toute façon, sera avec moi tout le reste de la semaine. Alors non, il y a un effort à fournir. On va le voir au travers, par exemple, de Luc 11, d'une parabole qui nous vient du Seigneur. Luc 11, je lis donc à partir du verset 5. Donc c'est Jésus qui nous enseigne. Luc 11, verset 5. Il leur dit encore, « Si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, « Ami, prête-moi 3 pains. » Car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, « Ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi, nous sommes au lit. Je ne puis me lever pour te donner des pains. » Je vous le dis, quand même, il ne se lèverait pas pour lui donner, parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Elle en ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Amen. Hein? Pour recevoir le Saint-Esprit, pour recevoir la bénédiction de Dieu, alors nous devons frapper, nous devons chercher et le Seigneur agira. Hein? Le chercher, c'est pas qu'on est en train de faire à jouer cache-cache dans la forêt et puis Seigneur, où es-tu? Hein? Non, comment un chrétien va chercher Dieu? Il va chercher Dieu au travers de la prière. Il va chercher la pensée de Dieu aussi au travers de la lecture de sa parole. Dieu se laisse trouver. Demandez et l'on vous donnera. Hein, ça, c'est bien la prière aussi. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Voilà, ça, c'est un encouragement pour chacun d'entre nous. Si nous cherchons la pensée du Seigneur, si nous cherchons aussi à avoir une vie de victoire, parce que nous sommes tous dans un combat aujourd'hui, nous devons prier, nous devons chercher la face du Seigneur, nous devons l'appeler au secours, et Dieu est là, et Dieu agira, Dieu entendra nos cris et viendra à notre secours. Il est le Seigneur de notre délivrance. Il y a un effort, donc, pour vivre cette présence du Saint-Esprit. Bien sûr que, en premier lieu, c'est un don. Mais il y a quand même un effort à faire. C'est pas quelque chose qui va nous tomber comme ça automatiquement parce qu'on vient à l'église le dimanche. Et on peut se rappeler aussi de cette parabole des 5 vierges folles et des 5 vierges sages, hein. Les folles, quelque part, elles croyaient que le Saint-Esprit, ça s'achetait. Hein, qu'il suffisait d'aller commercer avec. Et aujourd'hui, pour rejoindre un peu la pensée actuelle, ce serait croire qu'en allant dans des séminaires payants, soi-disant de formation prophétique, de renouvellement du Saint-Esprit ou que sais-je encore, enfin on allait recevoir pleinement cette puissance qui vient de Dieu. Enfin, le Seigneur nous conduirait sur la voie de la bénédiction. Alors, moi, j'ai rien contre les séminaires et tout, hein, je juge personne, hein, par rapport à ça, rien, hein, je veux dire, voilà. Mais n'oublions pas quand même que le Saint-Esprit ne s'achète pas. Et aujourd'hui, je suis quand même des fois un peu désolé quand je vois que des séminaires qui sont toujours payants, alors qu'on pourrait peut-être faire simplement une collecte pour couvrir les besoins à la fin de la rencontre, hein. Moi, je vois des têtes qui hochent dans le positif, donc je suis pas le seul à penser comme ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, des fois, par endroit, on monnaie un peu tout. Hein? Si tu veux grandir, découvrir plus ton ministère ou je sais pas quoi, ben il faut payer. Puis pour finir, ça devient un peu un business. Et ça, je pense que c'est pas forcément la pensée du Seigneur. Jérémie 7. On continue notre parcours dans la Bible ce matin, Jérémie 7, versets 1 à 4. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Place-toi à la porte de la maison de l'Éternel, et là, publie cette parole. Écoutez la parole de l'Éternel, vous tous, hommes de Juda, qui entrez par ces portes, pour vous prosterner devant l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Réformez vos voies et vos œuvres, et je vous laisserai demeurer dans ce lieu. Ne vous livrez pas à des espérances trompeuses en disant, c'est ici le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel. Le peuple de Dieu à ce moment-là croyait, parce qu'il était à Jérusalem et que le temple s'y trouvait, qu'ils allaient être à l'abri de tout problème. Et c'était une fausse assurance. Aujourd'hui, si nous venons à l'Église sans soumettre nos existences à la volonté de Dieu et sans chercher à conformer nos vies à la parole du Seigneur, alors notre assurance est également vaine. Voici ce que dit le Seigneur. Réformez vos voies et vos œuvres. Hein, Jérémie 7, verset 3, réformez vos voies et vos œuvres, et je vous laisserai demeurer dans ce lieu. Mais c'est quoi une véritable réforme? On va parler un petit peu de ça ce matin, parce que dans certains courants, on entend parler, par exemple, de la réforme apostolique, ou encore un autre courant, The Last Reformation, un courant qui, soi-disant, serait un retour de l'Église aux actes des apôtres. Alors, je vous avais déjà parlé de ces choses-là, on ne va pas aller en détail par rapport à ça, mais voir que c'est étonnant parce qu'il y a un petit peu, il y a un enseignement qui est là, des fois assez présent dans certaines églises, et qui montre que quelque part, ils n'ont pas compris ce que c'est réformer ces voies. Quelle est la pensée de Dieu par rapport à une réforme? Qu'est-ce qu'une véritable réforme? Et c'est ce que nous allons voir donc ce matin. Alors, est-ce que cette réforme, c'est le retour de l'Église aux actes des apôtres, comme le disent donc ce mouvement-là, Reformation? Car voilà ce qu'ils disent, soi-disant, des années de tradition ecclésiastique et religieuse ont transformé la façon de vivre l'Évangile. Hein? Voilà, ça ce serait la réforme, hein, ce voulu par Dieu, c'est un retour aux actes des apôtres, parce que, soi-disant, des années de tradition ecclésiastique et religieuse auraient transformé la façon de vivre l'Évangile. Est-ce ça une véritable réforme, ou bien la réforme apostolique, où il faudrait se trouver des apôtres, ou les nommer si on n'en a pas, afin que l'Église retrouve son fonctionnement originel, hein? Alors, j'ai baigné dans des enseignements qui s'appelaient, par exemple, les cinq ministères. Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui a entendu parler de ça? Les cinq ministères. Il y a une main qui se lève. Pas beaucoup. Les cinq ministères, hein. Apôtres, prophètes, évangélistes, docteurs, pasteurs, ça vous dit quelque chose? Il y a des enseignements par rapport à ça. Et puis, ils mettent en fait beaucoup l'accent sur l'apôtre. Voilà, l'apôtre serait quelqu'un au-dessus de tous, avec une onction toute particulière. Et qu'en fait, il faut se trouver des apôtres. Et qu'une église a besoin d'un apôtre quelque part. Hein, il n'est pas forcément dans ton église, il n'est peut-être même pas dans ta région, peut-être même pas dans ton pays. Mais tu as besoin d'une couverture apostolique. Hein. Ce terme, peut-être, voilà, il y a quelqu'un qui sourit, il a déjà entendu avoir. Donc, ce serait comme une super protection parce que Dieu, grâce à cet homme-là, permettrait à ce que l'Église puisse entrer véritablement dans la bénédiction. Alors, bon, on ne peut pas aller super en détail ce que c'est qu'un apôtre d'après la pensée du Seigneur. On verra quand même avec des textes bibliques ce matin, clairement. Hein. Il peut y avoir aujourd'hui un apôtre, c'est un visionnaire, un fondateur d'Église. Ou un apôtre, simplement un missionnaire, parce que ça veut dire envoyer. Hein, c'est un ministère encore aujourd'hui qui est en cours. Il y a des missionnaires, il y en a. Mais on verra que la compréhension qu'ont certains courants aujourd'hui par rapport à l'apôtre est une compréhension que je crois qui est tronquée par rapport à l'Église. Et puis on verra que c'est quand même important de chercher quelle est la pensée du Seigneur dans ce domaine. Alors qu'est-ce qu'une véritable réforme? C'est pas compliqué. Il suffit de retourner au XVIe siècle avec des personnages comme Calvin, comme Luther, parce que nous sommes des héritiers de cette réforme. Hein, c'est des gens qui nous ont laissé quand même un bagage. Alors, ils n'étaient pas parfaits, leur théologie n'était pas parfaite, mais ils avaient quand même reçu quelque chose d'extraordinaire à leur époque. C'était un retour aux Écritures. Un des piliers de la réforme du XVIe siècle, c'est sola scriptura en latin, l'Écriture seule, hein, comme fondement de la foi, comme compréhension aussi de ce que doit être l'Église. Voilà, on ne construit pas l'Église comme ça, d'après quelque chose qui nous plaît, mais vraiment d'après ce que nous dit et ce que nous enseignent les Écritures. Et les réformés, ils ont quand même fait un bon boulot, parce qu'au XVIe siècle, ce qu'était devenu l'Église catholique à l'époque, hein, là, c'était pas tout simple. Et aujourd'hui, ce qu'est l'Église catholique, c'est plus qu'est l'Église du XVe ou du XVIe siècle. Elle a elle-même réformé ses voies suite à la réforme de personnages comme Luther et Calvin. Alors, une véritable réforme, elle doit en fait passer, pour voir si c'est une véritable réforme, au crible de la parole. Hein? Est-ce que cette réforme est conforme aux Écritures? Ça, c'est une véritable réforme. C'est pas de changer une structure de l'Église, mais c'est vraiment de revenir aux Écritures, de rebaser notre foi sur le fondement des Écritures. Amen. L'Église n'est pas appelée à être construite d'une manière humaine. Acte 7, verset 44, nous donne déjà une première piste. Acte 7, 44, « Nos pères avaient au désert le tabernacle du témoignage, comme l'avait ordonné celui qui a dit à Moïse de le faire d'après le modèle qu'il avait vu. Hein? » Quand on regarde en arrière, Moïse lui-même, il n'a pas construit un tabernacle en se disant « Ah ben alors, ouais, moi j'aimerais une partie bien ombragée, donc je fais une grande tente comme ça, et puis ça va être chouette. » Non, Dieu lui a révélé un plan, et il a construit d'après ce plan le tabernacle. Et il l'a pas fait comme ça, simplement selon ses pensées et selon une mode éphémère. Et après, d'ailleurs, le fils de David, Salomon, il a construit le temple aussi d'après un plan. Hein? Toutes les dimensions du temple de Jérusalem étaient en fait doublées par rapport à la tente d'assignation, c'est-à-dire la tente de la rencontre, hein, la tente qui était dans le désert. Salomon, il a fait le double de la dimension. Donc, il n'est pas parti comme ça, sur une idée qui lui était propre, et puis en avant, comme dit une certaine personne de l'Église, et hardi la glisse. Hein? Non, il a suivi le modèle que le Seigneur lui avait déposé sur son cœur. Et aujourd'hui, il doit en être de même pour l'Église. Sola scriptura, l'Écriture seule. C'est l'Écriture seule qui est la base de notre compréhension de quelle manière on doit construire l'Église du Seigneur. Et l'Écriture, dans son ensemble, a été inspirée par le Seigneur. Et ça, on l'avait vu dernièrement dans l'étude biblique de 2 Pierre. Je vous relis juste le passage, on va pas ouvrir la Bible là. 2 Pierre 1, 21. « Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » On avait vu ici que prophétie pouvait aussi très bien s'attacher aux Écritures en entier. Hein? Les Écritures, elles sont prophétiques, c'est-à-dire pas seulement qui annoncent des choses à venir, mais prophétiques dans le sens, elles sont inspirées par l'Esprit du Seigneur. Et c'est pas par une volonté humaine que les hommes ont écrit la Bible. Amen. Mais parce qu'ils ont été poussés par le Saint-Esprit, parce qu'ils ont été inspirés par le Saint-Esprit, ils n'ont pas écrit des choses selon leurs propres pensées, mais ils ont été vraiment conduits par Dieu. Et aujourd'hui, le témoignage que nous avons pour construire l'Église se trouve dans le Nouveau Testament. Les fondements de l'Église se trouvent dans le Nouveau Testament. Dieu a utilisé des serviteurs qui ont été inspirés à 100% pour qu'aujourd'hui, on puisse avoir des fondements solides. Gloire à lui. Amen. Hein? Et pour pouvoir comprendre ces Écritures qui sont 100% inspirées, nous, on a besoin de la grâce de Dieu et d'être en retour aussi inspirés, que le Saint-Esprit nous parle, que le Saint-Esprit nous révèle la pensée, sa pensée à lui. Parce que certains textes, des fois, et c'est, on va voir justement des textes, des fois on peut avoir, franchement, l'interprétation elle est difficile. On a vraiment besoin que le Saint-Esprit nous parle, qu'il nous donne sa pensée. Et c'est peut-être pas la première fois qu'on va étudier ces textes, qu'on va tout saisir. Des fois il faut y revenir, des fois il faut prier, et puis tout à coup, on se dit « Ah ouais, cette fois je crois que je comprends, Seigneur, je crois bien que c'est de cette façon-là. » Et puis ça vient confirmer après par d'autres versets. Hein, parce que la Bible, elle s'éclaire par elle-même. Elle va jamais être une contradiction. Si elle est une contradiction, c'est que quelque part, on n'a pas compris quelque chose. Il y a quelque chose qui nous manque. Il y a une part de révélation qui peut-être nous a pas encore été donnée. Alors, pour saisir un fondement important de l'Église, allons dans Éphésiens 2, verset 20. Éphésiens 2, verset 20. Éphésiens 2, verset 20 nous dit ceci. Ainsi donc, je lis le 19, pardon. Alors, Éphésiens 2, verset 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Verset 21, « En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. » Amen. Hein? On est appelé à être un temple bien coordonné, saint dans le Seigneur, tous ensemble, hein? Et on est appelé aussi personnellement à être une habitation de Dieu en esprit. Et pour ça, nous avons été édifiés sur quoi ? Sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Hein, il est la pierre centrale, il est le point de départ. Et il nous a donné comme fondement des apôtres et des prophètes. Quand on construit une maison, alors je sais qu'il y a un maçon ici parmi nous, hein, si on fait les fondations à moitié, que va-t-il se passer? Hein? Ou si on fait des fondations qui ne correspondent pas au terrain sur lequel on veut construire une maison, on se dit, oh ben, je peux me faire le même type de fondation que j'avais fait là dans la plaine. Là, je suis en montagne, mais je fais le même type de fondation, ça va tenir, j'ai l'expérience. Hein? Que va-t-il se passer? Si les fondements d'une maison ne sont pas bons, un jour ou l'autre, t'as beau faire tout le reste parfait, tout le reste dans les normes, avec le respect de toutes les normes de construction que tu veux, et peut-être même faire plus solide, un jour ou l'autre, la maison va s'écrouler. Et au niveau de l'Église, c'est la même chose. Si on n'a pas compris les fondations, quel est le fondement que Dieu veut pour son Église, ben on risque de construire quelque chose qui ne va pas tenir dans le temps. Si les fondements de l'Église ne sont pas bons, ben dans le temps, ça ne tiendra pas. Parce que ça aura été construit en dehors du Seigneur, en dehors de sa pensée. Alors, qui sont ces apôtres et ces prophètes? Et vous vous rappelez, je vous parlais de ces mouvements qui nous parlent de réforme apostolique, etc. Hein? On a besoin de comprendre qui sont ces apôtres et ces prophètes. Parce que certains vont dire, ben justement, nommons-nous des apôtres. Nommons-nous des prophètes. Alors, moi, j'ai rien contre un ministère prophétique, hein. Je crois que Dieu parle encore aujourd'hui, puis que des fois, certaines personnes ont peut-être un don particulier par rapport à ça. Mais j'ai quand même un souci quand on pense qu'aujourd'hui, pour construire une église vraiment selon la pensée de Dieu, on doit nommer des apôtres. Qui sont donc ces apôtres et ces prophètes? Eh ben, on a une piste de réflexion. Pas besoin d'aller beaucoup plus loin, hein. Éphésiens 3. Hein, on tourne peut-être une page, chez certains, il n'y a même pas besoin de tourner la page. Éphésiens 3, les versets 3 à 6. C'est Paul qui nous parle. « Car c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots. En lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai eue du mystère de Christ. » Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. On retrouve apôtres et prophètes. Qui sont ces hommes? C'est ces hommes qui ont reçu la révélation du mystère de Christ, hein, à savoir son Église, à savoir le mystère de Christ, c'est de réconcilier les païens et les juifs pour faire un seul peuple qui appartienne au Seigneur, c'est bien les apôtres et les prophètes de Christ qui ont été établis par Christ. Mais qui sont ces hommes? Et Paul nous dit, maintenant, ils ont eu la révélation, maintenant, c'est quelque chose qu'ils ont eu, les apôtres et les prophètes. C'est donc simplement les disciples du Seigneur et toutes les personnes que Dieu a utilisées, car ils ont été inspirés par le Seigneur. Hein. Comprendre que ce prophétique, ce n'est pas seulement les choses à venir, mais c'est cette notion aussi d'inspiration. Toute écriture est inspirée par Dieu. Hein, c'est cette notion-là. Donc, c'est en fait les écrivains du Nouveau Testament. Est-ce que c'est clair pour vous? Hein, est-ce que je ne vous perds pas dans ce que je suis en train de vous partager? Hein? Les apôtres et les prophètes, ils ont reçu, là, nous dit Paul, la révélation maintenant, donc il y a 2000 ans en arrière. C'est eux le fondement de l'Église. c'est les apôtres du Seigneur Jésus-Christ, le fondement de l'Église, c'est les prophètes du Seigneur, c'est-à-dire ceux qui ont été inspirés pour nous laisser un témoignage et un héritage, les Saintes Écritures. Amen. Et si en fait on veut une Église fondée selon la pensée de Dieu, eh ben c'est là qu'on va trouver les choses. Hein? C'est en fondant l'Église selon la pensée des apôtres et des prophètes du Nouveau Testament. Amen. Hein? Ça, c'est, moi je le crois sincèrement, c'est la pensée du Seigneur. Et ce n'est pas de se nommer des ministères supplémentaires, c'est de se nommer des apôtres qui vont permettre d'avoir une ecclésiologie, c'est-à-dire une vision et une construction et une vie d'Église selon la pensée du Seigneur. Non, les apôtres et les prophètes, cela nous parle clairement en fait de ceux que le Seigneur avait choisis pour révéler sa pensée aux saints apôtres et prophètes de Christ. Hein? C'est Christ qui les a choisis, il les a établis. Et aujourd'hui, pour avoir un modèle d'Église selon la pensée du Seigneur, ben, il faut revenir simplement aux Écritures. Ça, c'est une véritable réforme. C'est ce que je vous disais avant. Sola Scriptura, l'Écriture seule. Seule comme fondement de l'Église, seule comme le fondement de notre foi. Alors, je fais juste un petit retour quand même en arrière, entre guillemets, pour vous dire qu'aujourd'hui, tout n'est pas si simple et que dans certaines églises, on a une autre vision de ce qu'est un apôtre. Je vous lis donc une citation d'un ouvrage. « Nous sommes confinés dans nos limitations terrestres lorsque nos leaders sont des enseignants, des pasteurs, des administrateurs et des évangélistes » qui ne sont pas raccordés au flux de l'onction et de la révélation d'un gouvernement apostolique. » Alors, c'est une citation qui vient d'un livre qui s'appelle « La culture de l'honneur » qui a été écrit par un Danny Silk de l'église Bethel Church. Hein, je vous relis ça. « Nous sommes confinés dans nos limitations terrestres, lorsque nos leaders sont des enseignants, des pasteurs, des administrateurs et des évangélistes qui ne sont pas raccordés au flux de l'onction et de la révélation d'un gouvernement apostolique. Hein? On voit que ce mouvement d'Église, qui aujourd'hui est quand même par endroits assez influençant, croit qu'il faut un gouvernement apostolique, qu'il faut justement des hommes qui sont au-dessus des autres. Et parce que ces hommes qui sont au-dessus des autres ont reçu un appel particulier, ils ont une onction particulière, et parce qu'ils ont cette onction particulière, alors ils vont la transmettre à l'Église. Mais bon, moi je suis désolé, mais je ne crois pas que c'est ici la pensée du Seigneur. On va regarder quelques textes par rapport à ça, et pourquoi je ne pense pas que c'est ici la pensée du Seigneur. Parce que c'est en fait remettre un intermédiaire entre Dieu et l'homme. Hein. Il faut un apôtre pour que les membres de l'Église soient vraiment dans la puissance du Saint-Esprit, hein, qu'ils puissent pleinement recevoir la puissance du Saint-Esprit. Il faut un apôtre, donc il faut de nouveau un intermédiaire supplémentaire entre l'homme et Dieu, alors que nous croyons que le seul intermédiaire dont nous avons besoin, c'est qui? C'est Jésus. Amen. Hein? Et nous croyons aussi même au sacerdoce universel. Amen. Hein? Dieu a fait, on est tous prêtres quelque part, on peut tous rentrer dans le temple, dans le lieu très saint, et c'est un avantage qui nous a été acquis chèrement au travers de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. On n'a pas besoin d'un homme au-dessus de nous, on a besoin de Jésus-Christ. Apocalypse, je vous lis comme ça, hein, je vous lis Apocalypse donc de Jean chapitre 1 versets 5 et 6. De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Jésus a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. Hein? C'est bien ici la notion du sacerdoce universel. Nous tous, parce que nous sommes croyants et parce que nous avons remis notre vie entre les mains de Jésus-Christ, alors nous sommes des sacrificateurs. Nous pouvons rentrer dans la présence du Seigneur, on n'a pas besoin de quelqu'un de supplémentaire pour recevoir la bénédiction et l'onction du Saint-Esprit sur nos vies. Je vous lis un deuxième texte hein, qui vient en contradiction de ce livre « Culture de l'honneur » et de cette citation que je vous ai dit, fait comme quoi il nous faudrait un gouvernement apostolique. 1 Pierre 2, versets 4 et 5, je vous lis « Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Hein? » Nous avons besoin de nous approcher de qui? D'un apôtre? Non, de qui? De Jésus-Christ, rejeté par les hommes. Et c'est bien triste, hein, mais des fois dans l'Église, aujourd'hui, hein, il arrive où on rejette Jésus. Parce que si on met un homme là en intermédiaire, quelque part, mais je ne les juge pas, hein, mais quelque part déjà, c'est comme une forme de rejet de la part du Seigneur Jésus-Christ. Hein. Approchez-vous de lui, pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Hein, si on veut former une maison spirituelle, et je crois que c'est le désir de chacun d'entre nous, si on se réunit là, c'est pas parce qu'on s'embête le dimanche matin, c'est parce qu'on a envie d'être une maison spirituelle pour le Seigneur, un saint sacerdoce, amen, voilà, hein. Nous sommes appelés à être un saint sacerdoce, à être une nation de prêtres, parce que Dieu nous a rachetés et parce que le sang de Jésus-Christ nous permet d'entrer dans cette fonction. Encore un troisième texte biblique, Jean 16, verset 7, hein, parce que le Saint-Esprit ne vient pas parce qu'il y a un apôtre qui est au-dessus de nous, par qui nous est donné le Saint-Esprit? Par le Christ, hein. On peut penser, par exemple, que Jean-Baptiste a vu venir le Seigneur à lui, hein. Voici ce, non, c'était avant, hein. Il a prophétisé, pardon, parce que je dis ça comme ça de mémoire, et puis je me trompe, hein. Mais il a dit, moi, je vous baptise d'eau, mais celui qui viendra après moi, hein, je suis pas digne même de délier les courroies de ses sandales, et lui, vous baptisera de Saint-Esprit, hein, et de feu. Alléluia. C'est Jésus qui baptise encore aujourd'hui, et c'est Jésus qui baptise encore aujourd'hui son Église et chacun d'entre nous. Jean 16, verset 7 aussi, pour voir d'où nous vient le Saint-Esprit. C'est Jésus qui nous dit, « Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Alléluia! Et Jésus, il est parti. Hein? Et donc, la promesse, elle est accomplie. Voilà, on a la promesse que Jésus va nous envoyer le Saint-Esprit. Cette promesse-là, elle est encore complètement d'actualité pour chacun d'entre nous. On n'a pas besoin d'un apôtre au-dessus de nous. Hein? On n'a pas besoin de se mettre sous un joug humain pour ce qu'on peut recevoir gratuitement et librement au travers de Jésus-Christ. Et il n'y a que Jésus-Christ aujourd'hui qui baptise du Saint-Esprit, et il n'y a que Jésus-Christ qui nous envoie le Saint-Esprit. Nous pouvons compter sur lui, et il va faire de nous un peuple de sacrificateurs. Amen. Donc voilà, j'en ai fini pour ce matin, hein, donc c'est un petit peu plus formé l'enseignement, entre guillemets. Cherchons donc à construire une église selon le modèle de Dieu, selon la révélation que Dieu nous a donnée au travers de ses serviteurs, qui ont été les apôtres et les prophètes du Nouveau Testament. Ne nous mettons pas sous le joug et l'autorité d'un homme qui soi-disant porterait un grand titre, mais restons libres en Jésus-Christ. C'est là ma prière pour chacun d'entre nous et pour nous en tant que corps du Christ, ici, parce que oui, nous faisons partie de la maison du Seigneur. C'est ici ma prière aussi pour cette Église. Amen.